Bonjour à tous, voilà, c'est le cinquième épisode de notre série sur le rock au féminin. Autour de la table,
hey Christophe, comme d'habitude,
Christophe de la Roxette, Véro est toujours Véro, bah oui.
Timo est là aussi, ainsi que Melior.
Ouais, de The First Time à mettre de blues, hein, on va pas non plus négliger, quoi, ouais. Évidemment. Donc c'est le deuxième volet des Voix Rebelles, voilà, de notre...
Grande série.
Ouais, grande série de deux volets sur les Voix Rebelles, en effet. Et donc on attaque avec Tina Turner, hein, tout le monde a l'image de Tina Turner, belle femme avec des belles jambes, franchement elle avait de super jambes, avec une grande crinière.
Mais tu peux parler au présent, hein.
Elle est toujours.
Ouais, mais peut-être qu'elle a les moins belles jambes aujourd'hui.
Détrompe-toi.
Ouais, bon, elle est née en 39 quand même.
Elle fait de l'aquabike.
Ouais, avec. c'est ça.
À la glo.
Donc, comme beaucoup de chanteuses, elle commence chorale religieuse, évidemment, passage obligé. À la fin des années 50, elle rencontre Ike Turner, son futur mari, qui était le leader du groupe Les Kings of Rhythm. Et en fait, elle devient une de leurs choristes. Alors, elle tombe follement amoureuse de ce mec-là, qui par la suite lui a fait véritablement des misères. Et il était de 8 ans son aîné, et donc il était chanteur, guitariste, manager et producteur du groupe. Donc c'est lui en fait qui avait véritablement la mainmise sur tout le monde et toute la production.
Mais c'était un très bon musicien, c'est ça aussi. Elle a peut-être été
un très bon compositeur.
Et donc il se marie en 1962. Et lui, Ike Turner, il en fait un personnage de Tina Turner. D'ailleurs, c'est lui qui la surnomme Tina. Il en fait un personnage de scène ultra sexy, il lui fait mettre des robes courtes à paillettes, il lui demande en fait d'adopter l'image d'une femme un peu animale et sauvage, et d'où en fait cette coupe aussi là, les cheveux, voilà, cette crinière. Et donc c'est un véritable succès, ça fonctionne bien. Ils arrêtent en fait ce groupe avec les autres musiciens, ils forment un groupe où tous les deux, Ike et Tina, et puis bah ça marche toujours bien. Ils font style que tout va bien, etc. Mais en fait lui c'est un véritable tyran, il la bat, enfin voilà, il lui fait vraiment des misères, et elle est complètement dépendante de lui. Elle arrive,
absolument pas. Financièrement,
c'est ça, elle arrive absolument pas à se détacher, mais quand même. Quelques années plus tard, elle n'en peut plus, donc sans un sou, elle quitte la maison un soir, sans thune, sans fringue, rien du tout. Elle va se planquer chez des amis. Pendant 2 ans, elle s'est cachée de lui, quoi, pour pas qu'il la retrouve. Et en fait, ça tombait au moment où il devait partir en tournée. Donc, en fait, vu que c'était elle qui était partie, elle a dû rembourser les producteurs tout l'argent qui avait été investi dans cette tournée-là. Donc, elle était endettée...
pendant longtemps.
Ouais, pendant pas mal de temps. Ah, jusqu'à ce qu'elle remonte la pente et qu'en fait, elle arrive à se produire en solo. Et puis, bon, là, franchement, ça a plutôt bien marché. Ça, c'était à la fin des années 70.
Années 80 aussi.
80, ouais, exactement, exactement. Et donc, elle revient notamment avec un album qui s'appelle Rough, ça veut dire rugueux en anglais. Donc, tu vois qu'elle avait, elle avait plus envie de se laisser faire à ce moment-là. Et elle reprend dans cet album-là un titre d'Elton John, et c'est The Beach is Back. En gros, la salope est de retour. Peut-être pour dire à son mari, je suis là, tu m'insultes, mais moi, je suis de retour et je suis arrivée à remonter
ironique.
La pente.
Ouais.
Bah, évidemment.
Donc oui,
on peut peut-être écouter ce morceau-là.
Eh oui.
Allez, c'est parti.
Allez.
Stay on a Saturday night. I can beat the best that
Donc c'était The Beach Is Back, Tina Turner, une reprise d'Elton John.
Un grand rebelle lui aussi.
Un grand rebelle, ouais. Aïe aïe aïe. Ça c'est clair. Et, en fait, elle.
Petite pointe d'homophobie, ça fait pas mal.
Ouais. Bah non.
Non, je rigole. C'est de l'humour, c'est de l'humour.
Coupé. Et donc elle, les années 80, ouais, elle est franchement au top, et notamment avec un album qu'elle sort en 84 qui s'appelle Private Dancer. Et tout à l'heure on disait ouais, Queen of Sea, Queen of Sa, impératrice du blues, bah elle en fait c'était la queen du rock'n'roll. Hein, vous le saviez pas ça? Eh bah si, voilà.
Encore une.
Voilà, elles sont toutes des reines en fait finalement. Ouais. Et bon, juste pour préciser que c'était une grande star, une méga star, elle a remporté 11 Grammy Awards. Et c'était une des artistes les plus populaires du monde. Vous savez combien d'albums elle a vendu? Plus de 200 millions dans le monde entier. Enfin, je sais pas si Matmata peut dire ça, je crois pas. Bon bah voilà, bah encore voilà, bah Tina Turner franchement ouais, elle est pas mal. Et puis bah maintenant Patti Smith, Véro, toi t'as bossé sur
Bah ouais, mais Patti Smith elle est pas mal non plus. Bon, j'ai pas compté les albums.
La marraine de l'émission.
C'est ça, la marraine de l'émission, exactement. Et, oui, et c'est encore une queen hein. Bon, queen ouais, du punk bon enfin bon. Bref, elle naît en décembre 46 à Chicago. Ses parents sont instituteurs, ils sont plutôt très laïcs, hein, voilà, on va dire. Et puis, elle s'en va en 67, elle quitte le collège pour aller vivre à New York, où elle rencontre le photographe Robert Mapplethorpe, et commence une vie de bohème, quoi, comme on dit aujourd'hui, faite de rencontres artistiques, Andy Warhol et toute la clique, vit dans un hôtel parmi une communauté où circule pas mal de drogue, hein, et commence à fréquenter les célèbres clubs CBGB, un haut lieu de la naissance de la musique punk.
Yes.
Patti Smith est aussi peintre, photographe, écrivain. En 74, elle crée le Patti Smith Group et sort en 75 son premier album, Horses, qui commence par une reprise de Gloria.
Qui est un titre d'autre,
Les M,
Van Morrison.
Ouais.
Ah, c'est Van Morrison, pas lui qui l'a reprise déjà.
Non.
D'accord. Parce qu'elle a été beaucoup reprise par les Rolling Stones, etc. D'accord, je sais pas.
On va s'écouter ça hein, tout de suite. Look at the wind, you see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Merci Patty. Alors juste un dernier mot, donc elle s'engage aussi en tant que femme affranchie vraiment de tous les codes sociaux ou moraux. D'ailleurs quand on la voit en concert, elle s'en fout, elle se rase pas sous les bras, elle crache par terre, enfin bon, très détendue. Elle participe aussi à des manifestations contre la guerre en Irak et soutient activement les Pussy Riot ou Edward Snowden, enfin voilà. Donc elle est encore très présente, très active et elle fait souvent des lectures poétiques. Voilà pour Patty Smith. Christophe, je crois bien que c'est à toi. Et puis tu vas nous parler de Chrissy Hynde.
Yes, Chrissy Hynde. Bon, alors je trouve que par rapport à Patty Smith, voire même Tina Turner, c'est un peu le modèle en dessous en matière de rébellion, parce qu'elle n'a pas non plus une grande image de rebelle. Néanmoins, dans son attitude, elle a pris le format cuir. Et rien que pour ça, bah, on la classe dans les rebelles.
Juste à cause de sa veste en cuir.
Voilà, de son perfecté rouge. Mais avant de parler de Chrissy Hynde, on peut faire un tout petit retour en arrière sur Suzy Quatro, qui a inspiré le look de Chrissy Hynde. Et dire que... au début des années 70, il y a une scène heavy, glam rock qui s'est constituée et qu'il y a pas mal de femmes qui ont trouvé leur place dans cette nouvelle esthétique musicale. Suzy Quatro, elle, familialement, elle était dans un mouvement très musical. Il y avait sa sœur qui faisait partie d'un groupe qui était par contre, elle, très 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 féministe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle a profité de tout cet élan. Et Suzy Quatro a été très célèbre avant les années 75. Là, en 73, elle a fait un tube énorme qui s'appelait Can the Can, où elle, pour le coup, elle disait, le refrain, c'était « Résiste à ton homme, chérie, vas-y, il faut le bouger un peu, le gars, on va pas se laisser faire. » Suzy Quatro, c'est la personne qui a inventé la virilité féminine avec le cuir, mais l'attitude sur scène, jambes écartées, la basse qui descendait, et voilà, ça donnait une image quand même très séduisante. Il y avait plein d'hommes qui venaient au concert, qui avaient la langue qui pendait comme dans les dessins animés. Toute cette fabrication, ça a donné aussi derrière dans la foulée les Runaways avec Joan Jett, mais aussi Chrissy Hynde, qui elle, donc, a eu une existence à la campagne, tout ça, et au bout d'un moment, pareil, elle en a ras-le-bol, donc elle se tire à New York. De New York, bah, ça lui suffit pas. Elle entend qu'il se passe des trucs au début des années 70 à Londres. Elle prend l'avion, elle fonce là-bas et direct, elle fait des rencontres importantes. Elle était fan du NME, New Musical Express. Et bah, elle rencontre Nick Kent qui la prend sous son aile et elle devient... Le gars, il est pas fou, il l'héberge direct, il y a une histoire qui se crée, et elle devient pigiste. Elle travaille en même temps, sur le même moment, dans la boutique où tout se passe avec Vivienne Westwood, sur la boutique sexe. Et donc, elle rencontre tout ce qui se passe sur la scène rock, punk, qui se met en route. Et là encore, bon, ça lui suffit pas, donc elle va voir à Paris ce qui se passe. Et là, elle joue dans des groupes français, notamment un qui s'appelle les Frenchies. Et elle prend la place d'un gars qu'on connaît bien, nous, les grands cinéphiles, Jean-Marie Poiret, qui était musicien à l'époque, il n'avait pas encore fait les Visiteurs. Et Chrissy Hynde, elle, bah, elle l'a remplacé. Elle a fait quelques piges aussi dans des groupes. Bon, bah, Paris reste Paris. À Londres, il se passait quand même des choses beaucoup plus importantes. Et là, elle a vraiment installé son nid. Et je ne vais pas parler de promotion canapé, mais elle a enchaîné les histoires sentimentales et les histoires musicales, ça se recroisait. Elle a beaucoup fréquenté les gens des Sex Pistols, Chris Spedding. Elle a monté des groupes avec les mecs des Damned. Pour le coup, elle n'a pas eu de bol, puisque après quelques semaines de répétition, tous les gars se sont barrés. Elle est restée toute seule et les gars ont fonctionné avec Damned après. Cependant, à la suite d'une rencontre d'un producteur qui s'appelait Dave Hill, qui avait craqué sur la dame, notamment pour sa voix, évidemment, et a tout fait pour créer un groupe autour d'elle. Ils ont recruté des musiciens qui tenaient la route. Et là encore, bah, elle est tombée amoureuse du guitariste Pete Farndon. Bah, ça a donné des très bons résultats. Ils ont fait leur premier album en 79. Ils ont eu des hits. Mais les choses se sont un peu finies en eau de boudin, notamment pour le guitariste, parce qu'il s'est fait jeter, parce qu'elle était tombée amoureuse de nouveau d'un super grand, Ray Davis. Et bah, le gars, ça l'a déprimé, il en est mort. Il a fait une overdose. Quelques semaines avant, un autre musicien du groupe qui s'appelle Honeyman Scott, et bah, lui aussi, qui était bien plongé dedans, est mort. En quelques semaines, elle avait perdu tout son staff musical. Donc de nouveau, reconstitution, tout ça. Mais elle a réussi à surpasser ses difficultés.
Pas mal d'énergie quand même.
Pas mal d'énergie. Bon, et après, il y a eu un gros travail de fait avec le guitariste qui s'appelle Robert McIntosh. Et ils ont fait, en 1984, un titre pour lequel je suis très sensible. Ça s'appelle Learning to Crawl. Voilà, si vous voulez apprendre à nager, il faut s'adresser à Chrissy Hynde. Et donc, bah, du coup, très rapidement, elle a quand même eu l'envie de mettre en avant sa maternité et de dire que bah, on pouvait très bien être mère de famille et continuer une carrière dans le rock'n'roll et éventuellement ne pas faire comme Patti Smith ou Joni Mitchell, bah, abandonner son enfant. Et elle a tenu à s'occuper de l'éducation de ses enfants tout en continuant une carrière musicale. Donc bah, Chrissy Hynde, elle continue régulièrement à venir sur les ondes et à faire des disques. Là, il y a un nouveau disque des Pretenders qui vient de sortir. Alors maintenant, les Pretenders, c'est simple, c'est elle, un point, c'est tout. Et alors, elle alterne soit les disques de Pretenders où c'est elle, ou carrément les disques de Chrissy Hynde où c'est elle aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter le premier titre de leur premier album. Le titre s'appelle Precious.
Precious.
Ouais. Precious. Et c'est le premier titre. Et bah, allez hop.
Cause you're precious. Moving through the Cleveland heat, I'm precious. Taking odds in all the kicks, feel precious. But you know I was shitting bricks, cause I'm precious. Good Avenue was really precious. Hotel still ain't coming into view. How precious. It's a pity that you bruised my hip, cause I'm precious. You shouldn't let your manner slip, you're too precious.
D'écouter les Pretenders. Alors c'était pas le titre initial qu'il y avait sur l'album, c'était une démo. Là, on a la chance d'avoir une démo.
Ouais, ça se fout. Pour, bien,
ouais, ouais, déjà c'est
une
quand
démo
même...
qui veut dire avant de passer en studio.
Voilà, c'est ça. C'était une étape intermédiaire une avant maquette. Les profs. Voilà,
c'est déjà quand même pas
maquette,
mal. Hein.
Une maquette, une démo.
C'est pas mal quand même déjà.
Ouais, le démo c'est courant. Ça, là, c'est dans le langage. musicale. Bon, bah, Véronique, je te repasse la parole alors.
Ouais, ouais, je voulais juste deux petites minutes m'excuser platement parce que j'ai fait une erreur sur Patti Smith en précisant qu'elle avait des parents instituteurs. Pas du tout. C'est pas elle, je me suis trompée.
C'est ma cousine. C'est...
Ils faisaient quoi, ses voilà. parents ?
Donc, en fait, sa mère était plutôt catho. Bah, elle était témoin de Jéhovah. Donc,
ah oui, d'accord.
Elle n'était pas du tout laïque.
Ouais, pas d'accord.
Pas trop laïque. Ouais.
Non, elle était bien américaine.
Ça, en fait,
quoi.
C'est au bout de certains, voilà, un certain nombre d'émissions, on commence à être fatigué. En fait, je suis désolée. Hein, ouais. On bosse dur, quoi.
Ok, bah alors, voilà. Donc, il est temps de passer la parole à Ben, qui lui est en pleine forme.
Oui,
ouais, il pète la forme. Voilà. Ouais.
Allez, vas-y, Ben.
C'est parti.
C'est pour toi, là.
Toujours avec nous les filles, Peggy, là Peggy est angoissée un petit peu, là Peggy c'est un peu l'angoisse, nous allons parler de contraception. Et là Peggy, elle est méfiante. Donc la contraception, on va parler des femmes, qu'on va parler de la contraception, c'est au-delà des éventuelles baisses de la libido, les pertes de poids et autres joyeusetés cutanées qu'elle occasionne, la pilule contraceptive est l'une de ces immenses victoires que les femmes doivent au féminisme. En France, elle est autorisée en 1967 à l'adoption de la loi proposée par le député gaulliste Lucien Norwait. À ce moment-là, ça fait déjà 7 ans que le mouvement français pour le planning familial existe et qu'il a ouvert ses premiers lieux d'accueil et d'information. Clandestin, la contraception donne aux femmes une partie essentielle des moyens de disposer de leur corps et dégage la reproduction de la confortable place qu'elle occupait jusque-là au centre de la sexualité. Sa légalisation est une révolution. Aujourd'hui, alors qu'on compte 16 méthodes de contraception, le sujet fait débat au sein du mouvement. La contraception doit-elle rester l'affaire des femmes ? Alors que l'arrivée sur le marché d'une pilule pour les hommes est annoncée tous les 4 matins, sans jamais arriver, la question mérite d'être posée. 91% des hommes français estiment que la contraception devrait être l'affaire de tous et 61% d'entre eux se disent prêts à prendre une pilule. Mais si des méthodes contraceptives masculines existent déjà, comprimés, gels, etc., etc., elles restent confidentielles et expérimentales. Au-delà de l'aspect technique, le débat se cristallise surtout sur le fait qu'en cas de couac ou d'oubli, ce sont toujours, jusqu'à nouvel ordre, les femmes qui tombent enceintes. Toujours avec nous les filles, toujours en compagnie de Peggy. Et là, Peggy, elle est heureuse. Parce que Peggy, on va parler des bons coups. Et le bon coup, Peggy, elle en connaît rayon. Alors, un bon coup, qu'est-ce que c'est qu'un bon coup ? Alors, le bon coup, c'est comment être un bon coup en 10 leçons. 5 astuces pour donner du plaisir à une femme. 6 secrets pour l'envoyer au 7e ciel. Magazines et petits bouquins de développement personnel débordent de conseils sexo supposés infaillibles. Et souvent drôle, bien malgré eux. Il repose sur une idée gênante, celle que comme les hommes, les femmes seraient toutes les mêmes. Ainsi, de manière plutôt pratique, les femmes réclameraient toutes des préliminaires interminables, des petits câlins, des mots tendres, et que l'affaire dure des heures. Or, breaking news, les femmes ne constituent pas un bloc indivisible de goûts et de fantasmes. Elles n'aiment pas toutes la même chose. Non, non, promis. Tout comme les petits garçons ne veulent pas tous devenir pompiers. Les hommes n'aiment pas tous le foot et les vieux messieurs ne pratiquent pas tous la pêche à la ligne.
Gloria, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez-nous jusqu'au 12 mars chaque jour sur StudioZef91.1 ou à podcaster sur StudioZef.fr. À très bientôt.